Dans la parole de Dieu proclamée aujourd'hui, ça bouge, ça se déplace, ça vient de loin pour s'approcher. Les gens qui étaient proches vont partir plus loin. Les brebis, pas très bien suivies par leurs bergers, vont se disperser. Les foules vont se déplacer. Ça bouge. Rendons grâce à Dieu. Parce qu'il s'agit de mouvements de fait, de se déplacer, de se rapprocher, de s'éloigner aussi. Parce que les apôtres sont partis au loin, pas si loin que ça, hein, vous savez, ils sont allés dans leur première mission, ils ne devaient pas aller très très loin, s'occuper seulement des brebis perdues d'Israël. Un peu en Galilée, on ne touche pas à la Samarie, on laisse ça à Jésus. Ils sont probablement même pas descendus en Judée. Alors, ils ne sont pas allés très loin. Mais ils se sont promenés de ville en ville, de village en village, et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils se sont approchés de bien des gens, et probablement ils ont attiré par leurs paroles, leurs gestes, quelques personnes auprès d'eux. Puis ils reviennent de la mission. Les pauvres sont épuisés, exténués. Ils ont eu une première mission. Saint-Marc ne dit pas si ça a duré une semaine, un mois, deux mois, mais enfin, ils reviennent épuisés. Ils ont besoin de se reposer. Ils se sont promenés, ils ont bougé, ils se sont éloignés de Capharnaüm, de Jésus, puis ils reviennent auprès de Jésus. À la maison, c'est comme ça que Saint-Marc appelle leur lieu à Capharnaüm. On pourrait aussi dire le quartier général du royaume des cieux. Ça dépend de votre éducation. Mais pendant que les apôtres, eux, se baladent de ville en ville pour annoncer l'Évangile, prêcher, guérir, Jésus, lui, reste à Capharnaüm. Alors on peut imaginer une journée de Jésus, puisque les gens arrivent et partent constamment. Personne n'a le temps de manger. Alors, je me suis fait une petite idée d'un horaire de la vie de Jésus. Il se lève le matin, fait ses prières, parce qu'on sait qu'il faisait ça. Et puis, bon, un petit temps d'enseignement. Il n'y a rien comme enseigner tôt le matin, les gens ne sont pas trop réveillés, ça ne les traumatise pas, mais ça finit par rentrer. Je le sais, j'enseigne le matin. Puis, après un temps d'enseignement, quelques miracles, quelques guérisons, un peu de temps d'accompagnement, de direction spirituelle, enfin, admettons que la compagnie de Jésus n'a pas tout faux. Et puis, on recommence un temps d'enseignement, un temps de miracle, un temps de guérison, un temps d'accompagnement, encore et encore. Et à moins que j'ai sauté un verset, je n'ai pas entendu dire que Jésus, lui, se fatiguait. Il ne semblait pas avoir besoin de repos. Mais on peut espérer qu'en fin de journée, tard, il y a eu quelques heures pour dormir. Et puis les disciples reviennent de leur première mission, épuisés. Puis ils voient tout ce qui se passe, ces gens qui viennent et qui partent, et puis ils ne savent pas quoi faire avec ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont prêché, ils ont guéri et tout, pendant quelques jours, sur quelques kilomètres carrés, et ils sont fatigués. Mais s'il y a des gens qui arrivent et qui partent aussi nombreux au quartier général, ce sont des gens qui ont dû entendre parler de Jésus, qui l'ont peut-être vu passer dans leur ville ou leur village auparavant, et qui, attirés par sa parole, ses gestes, attirés par l'espérance qu'il ouvre, désirant, espérant le royaume qu'il annonce, ils sont prêts à se déplacer. Et ils viennent rarement seuls, si vous avez lu l'Évangile déjà, ils viennent avec leurs amis, les gens de leur famille qui sont malades, qui ne peuvent pas marcher. On déplace beaucoup de monde. Ça bouge. Là où il y a Jésus, là où la parole apparaît, là où des gestes de vie, de redressement et d'espérance sont posés, les gens sont prêts à se rassembler. Mais les disciples étaient fatigués. Ils avaient besoin de repos. Ils n'avaient pas de syndicat encore et tout. Et on n'était pas en France, ce n'était pas déjà décidé qu'il y avait les gens du Juillet, les Aoussiens. Il n'y avait rien de ça. Ben alors Jésus leur dit, on va prendre une barque et puis on va aller à l'écart, dans un endroit désert, vous pourrez vous reposer un peu. Ça serait bien. Si on arrêtait là, ça serait génial. L'évangile, ça marche. L'évangélisation, ça marche. Ça fait marcher. Ça rassemble. C'est beau. Mais ils sont fatigués. Et du coup, eux et Jésus vont arrêter de prêcher, d'accompagner, de faire des miracles, de redresser, d'annoncer le royaume. Un petit peu, quelque temps à l'écart. Jésus est tellement plein de miséricorde pour ses apôtres. Là, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de vacances. Alors, lorsqu'on lit dans Magnificat ou ailleurs que cet évangile nous invite aux vacances, ils ont manqué la fête d'évangile. Hein? Parce que les gens qui désirent le royaume, les gens qui ont goûté à la parole de Dieu, les gens qui ont bénéficié de la vie offerte, qui ont été redressés et qui croient vraiment qu'en Jésus, il y a quelque chose de Dieu, du royaume attendu qui se réalise, ils ne se laissent pas écarter comme ça, eux. Ah ben non. À pied, rapidement, plus vite qu'en barque, on se rend dans un endroit qui, espérait-on, aurait été désert. Alors vous imaginez la déception des pauvres apôtres lorsqu'ils arrivent et ils voient la foule. Ils étaient fatigués. Ils voulaient se reposer. Cette foule, Jésus, lui, la renvoie pas. Saisit de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis, sans berger. Il se mit sans repos, sans relâche, sans arrêt, à les enseigner longuement. Éventuellement, il va les nourrir, mais ça c'est pour dimanche prochain, alors j'en dis rien. Et là, les apôtres aussi vont devoir travailler. Mais j'en dis rien, c'est pour dimanche prochain. Et c'est le frère Roger qui vous parlera de tout ça. Vous savez, votre mission est déjà donnée pour dimanche prochain. C'est comme ça, j'en ai mangé. Vous et moi, on entend la parole de Dieu. Est-ce qu'elle nous déplace? Est-ce qu'elle vient nous chercher assez pour qu'on soit prêt à aller la porter au loin? Aller l'annoncer. Est-ce que la parole de Dieu, telle que nous la vivons avec les gestes, nos paroles, fait en sorte que les gens soient prêts à s'approcher de nous, à faire église avec nous? Est-ce que la parole de Dieu, la présence du Christ dans nos vies et de son esprit sont telles que ça rassemble, ça déplace, ça nous déplace? Et ça crée, d'un lieu à l'autre, des assemblées où on rend grâce à Dieu. J'espère que c'est le cas, parce que depuis la mort et la résurrection du Christ, ce ne sont pas seulement les brebis perdues de la maison d'Israël qu'il faut aller visiter. Ce n'est pas seulement la Galilée, peut-être un peu la Samarie et un peu la Judée. Non, le monde est le lieu où la parole de Dieu doit être. Et c'est vous et moi qui devons l'apporter. Nos frères et sœurs qui sont plus loin de nous, comme d'autres qui sont plus proches. Et si on y réfléchit bien, porté par la parole et l'apportant à d'autres, on va découvrir que peut-être très proche de nous, il y a plein de gens dont nous sommes fort éloignés. Et que très très loin de nous, il y a peut-être des gens qui sont déjà près du royaume. Depuis 2000 ans, c'est ce que l'Église fait. Portée par la parole du Christ, elle essaie, tant bien que mal, grâce à l'Esprit, à rassembler les hommes et les femmes. Parce qu'en Jésus-Christ mort et ressuscité, les murs de haine, les murs de division ont été abolis. De sorte que ceux qui ne pouvaient ni se voir, ni se parler, ni se toucher, celles et ceux qui ne pouvaient pas se vivre ensemble, sont appelés à vivre ensemble, à entendre la même parole, à vivre du même pain et du même vin, à se rassembler pour faire l'Eucharistie. En Jésus-Christ, mort et ressuscité, le mur de la haine, les séparations ont pris fin. Et depuis 2000 ans, à l'image du monde, les murs se relèvent, se redressent. Les gens arrêtent de bouger, se figent, ne se parlent plus Et lorsqu'ils se parlent, c'est pour s'invectiver, ou pour se séparer encore plus, voire pour se tuer. La parole de Dieu, elle, le Christ ressuscité, sont là pour travailler à défaire ces murs qui s'érigent toujours et encore. La parole de Dieu, nos assemblées, nos partages de la parole, du pain et du vin sont là pour montrer que malgré tout ce qui peut nous diviser et nous séparer, il n'y a pas de mur de haine désormais entre nous. Il devrait y avoir la paix que le Christ offre à ses disciples au matin de Pâques, au soir de Pâques. La paix qui seule peut venir de Dieu. Le rassemblement qui seul peut venir parce que l'Esprit de Dieu fait en sorte que on ne se laisse pas arrêter par ce qui pourrait être source, raison, cause d'ériger le mur. Pour ça, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mur, il faut bouger. Il faut avancer, s'approcher, s'éloigner. Comme ça, pendant qu'on marche à la suite du Christ, pendant qu'on se laisse déplacer par l'Esprit, on n'a pas le temps de construire des murs. On a juste le temps qu'il faut, quelques fois par semaine, pour se rassembler, rendre grâce à Dieu, que dans le Christ, les murs de la haine ont été séparés, vidés de leur sens. Et que de ça, nous vivons, c'est notre espérance, une espérance pour la paix entre nous, pour la paix dans l'Église, pour la paix dans le monde, pour la paix entre l'Église et le monde, pour faire en sorte qu'on soit capable de se déplacer, d'aller au loin et de réentendre la parole de Dieu, et de rester proche et d'entendre à nouveau la parole de Dieu. La table a été préparée pour nous, la parole a été partagée. Il reste simplement à partager ensemble le corps et le sang du Christ. Et nous savons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous espérons, ayant partagé ce pain, nous ne sommes plus qu'un dans le Christ.